BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. Ce matin, on va parler family office, on va parler voiture électrique et on va aussi parler du PER, du plan épargne retraite. A tout à l'heure.
BFM Business, l'info éco. Léo Dumas.
Bonjour à tous. L'OCDE relève sa prévision de croissance mondiale pour 2024. L'organisation anticipe désormais 3,1% contre 2,9% lors de ses précédentes prévisions en février. Une révision à la hausse soutenue par le dynamisme de la reprise aux États-Unis où l'OCDE attend désormais 2,6% de hausse du PIB cette année. Et puis dans la zone euro, comme en France, la projection de croissance est aussi relevée de 0,6% à 0,7%. La France qui reste championne d'Europe de l'attractivité économique pour la cinquième année consécutive, c'est le constat du baromètre EY publié ce matin. Au total, 1194 projets d'implantation ou d'extension ont été annoncés l'an dernier. C'est plus qu'au Royaume-Uni ou qu'en Allemagne. Écoutez la réaction de Bruno Le Maire ce matin sur RMC.
Je pense qu'au bout de 5 fois, on peut reconnaître que ce n'est plus le hasard, c'est le résultat de la politique de l'offre qui a été menée par le gouvernement depuis 7 ans et que nous continuerons à maintenir parce qu'elle donne des résultats très concrets. C'est 40 000 emplois partout dans les territoires, partout dans les régions pour nos compatriotes. C'est des usines qui ouvrent, des usines qui s'agrandissent, c'est des perspectives de prospérité pour tous nos compatriotes. C'est ça que veut dire ce baromètre. Ça veut dire du travail et de l'activité pour tous les Français sur tout le territoire. Et c'est le résultat de notre politique économique.
Bruno Le Maire qui assure aussi ce matin qu'il se battra pour que Total Energy ne transfère pas sa cotation principale de Paris à Wall Street. Le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, a déclaré à plusieurs reprises envisager cette option ces derniers jours. Au chapitre des résultats, ceux de Worldline. D'abord, le groupe français spécialiste des paiements électroniques publie un chiffre d'affaires en hausse de 2,5% sur un an à 1,1 milliard d'euros au premier trimestre. Worldline, qui est en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, assure son directeur général. Le retour des profits chez ArcelorMittal, le site d'érurgiste, fait état d'un bénéfice net de 938 millions de dollars sur les 3 premiers mois de l'année. Après une perte sèche au trimestre précédent, le groupe profite d'un redressement des prix et d'une reprise des volumes. Il confirme ses objectifs financiers pour 2024. Novo Nordisk, lui, est plus que jamais dans le vert. Son bénéfice net bondit de 28% au premier trimestre à 3,4 milliards d'euros. Ses ventes grimpent aussi de 24% au-dessus des attentes des analystes. Le laboratoire danois revoit ainsi ses prévisions à la hausse pour cette année. Publication du pétrolier Shell également. Le bénéfice net part du groupe baisse de 15,5% sur un an au T1 à 7,4 milliards de livres, mais il est largement supérieur aux attentes. Le groupe britannique profite de la vigueur du négociation de pétrole et de l'augmentation des marges de raffinage. Et puis la Fed a maintenu ses taux inchangés hier soir. Il reste au plus haut depuis 20 ans, dans une fourchette de 5,25 à 5,5%. La Banque centrale américaine qui pointe l'absence de progrès sur le front de l'inflation, mais assure qu'un nouveau mouvement des taux à la hausse est peu probable.
Merci Léo.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business, à la radio, à la télé et puis sur le web. Bonjour à vous qui nous écoutez également en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes jeudi 2 mai 2024. Au programme de cette émission, une question: faut-il augmenter la rémunération variable des salariés? Notre gestionnaire de patrimoine Géraldine Métifeux va nous dire que c'est comme la rémunération des patrons, tout est une question de proportion. À 10h30, votre dose quotidienne d'économie et Nicolas Dose qui va revenir sur notre place, sur le podium, en haut du podium de l'attractivité en Europe. On va décrypter le baromètre EY qui existe depuis 1997. Côté bourse, c'est Antoine Larigonnerie depuis Euronext qui est déjà connecté, ainsi que nos deux traders pour le match des traders dans quelques minutes. Ce matin, on vous coach, on va s'intéresser de près au family office. Comment s'inspirer des méthodes des family office pour gérer mieux votre argent? C'est Alex Alexandre Leng de Tudigo qui va nous apprendre quelques éléments. Le question-réponse du jour portera sur l'automobile électrique et la bourse. Comment performent les pure players de l'électrique sur les marchés? Les investisseurs, vous le savez, redoutent une guerre de prix et une chute des marges face à l'arrivée de la concurrence chinoise. Au décryptage, deux experts des marchés et deux passionnés de voitures vers 11h30. On investira aujourd'hui dans votre plan épargne retraite. Vous savez, ce PER a déjà séduit 10 millions de Français. Comment expliquer le fort engouement pour ce plan d'épargne retraite? Et on répondra aussi à une question de Raphaël, un de nos auditeurs, sur le plan épargne retraite populaire. Au programme, il y a vous, comme Raphaël, vous nous écrivez à l'adresse directe @bfmbusiness.fr, comme Laurent, qui nous demande son avis, notre avis, sur les dépôts à terme. Il a une grosse somme déposée à 3%. Géraldine Métifeux va lui dire si c'est une bonne idée de laisser cet argent sur son compte à terme. Et puis, vous pouvez nous écrire donc l'adresse directe @bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. Il est temps de partir rejoindre Antoine du côté de Euronext avec un CAC 40 hein, qui est en dessous des 8000 points.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Cher Antoine, on vous retrouve sur fond de pression marquée à la baisse ce matin du côté du CAC 40.
Oui, moins 0,69% pour l'indice vedette de la Bourse de Paris, effectivement. On avait décroché des 8000 points en clôture mardi soir avant le 1er mai et on s'enfonce hein, sous ce niveau symbolique à 7930 points. À noter que la tech surperforme très légèrement. L'Euronext Tech Leaders est quasiment inchangé, moins 0,03%, mais de la pression à la baisse aussi sur l'Eurostock 50 qui perd 0,33% et sur le DAX à Francfort. En revanche, là, on a une hausse, hein, plus 0,07%. Donc, des performances très disparates, des marchés un petit peu perdus, il faut bien le dire. Après, alors notamment des effets techniques dus à ce jour férié du 1er mai, puis aussi le rendu de décision de la Fed hier, les commentaires de Jerome Powell qui constate que l'inflation est toujours tenace, mais parallèlement, on a tout un tas d'indicateurs économiques qui montrent que l'activité est peut-être en train de faiblir du côté des États-Unis, malgré les prévisions et les analyses plutôt encourageantes de l'OCDE. Donc, du coup, on a des marchés un petit peu perdus au milieu de ces considérations. Il y a toujours autant de résultats d'entreprise aussi qui biaisent un petit peu la tendance. Alors, à noter le secteur des semi-conducteurs qui est quand même largement vendu ce matin avec ST Microelectronics en particulier qui perd 1,9% à 36,93€. On a eu des résultats plutôt encourageants de la part de Qualcomm hier soir. Mais avant-hier soir, c'était AMD qui passait sur le grill des trimestriels. Et là, franchement, les perspectives étaient pas fameuses. Ça recoupe toutes les indications en provenance d'ST Micro, en provenance d'Intel, etc. Des grands noms des semi-conducteurs, notamment avec les dynamique de croissance de l'IA qui semble plafonner et peut-être des problèmes sur d'autres marchés. Donc du coup, là, le sentiment est plutôt négatif sur l'ensemble du secteur. À noter la forte consolidation de Stellantis hein, qui recule encore moins 3,2% à 20,21€. On a également Safran qui recule d'1,18% à 201,80€ ou Sanofi moins 0,8 à 92,30. En revanche, une très forte hausse à signaler, c'est celle de Téléperformance. Hein. Après les chiffres d'activité trimestrielle, le titre s'envole plus 11,3% à 95,16€. À noter Engie qui avance de 3,2% à 15,32€. Et puis de très bonnes performances qui sont aussi saluées par la bourse, celle d'Imerys qui gagne 9,3% à 33,10. Et également celle de Worldline qui prend 7,9% à 10,58. Le CAC donc moins 0,57%, 7939 points. Un petit peu de volatilité, un petit peu d'indécision en ce début de séance. Et l'euro 1,0718, Lorraine.
Merci cher Antoine. On vous retrouve un petit peu plus tard pour continuer à faire le point sur le CAC. À tout à l'heure.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Le journal de votre argent avec notre gestionnaire de patrimoine du jeudi, c'est Géraldine Métifeux. Bonjour chère Géraldine.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes associée gérante d'Alter Egal et avec vous, un journal qui commence par de la générosité.
Générosité intéressée, si c'est possible.
On va parler du don. 2% des foyers les plus aisés ont donné environ 2 500 €.
Et un peu plus, en fait, finalement, 2686 en moyenne versus 2372 en 2022. C'est les chiffres de 2023, bien sûr, on n'a pas les chiffres de 2024, c'est évident. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que, comme on a l'habitude de dire, tous les dons comptent, mais enfin, les dons des plus riches comptent un peu plus que les autres dons. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que suite à la suppression de l'ISF, il y a eu moins de générosité, parce que comme il y a moins de contribuables soumis à l'IFI que ceux qui étaient à l'ISF, fatalement, il y a moins d'envie de faire baisser son plafond d'IFI, fatalement. Néanmoins, ceux qui payent l'IFI, suffit, contribue encore plus largement que les 2% dont qu'on vient d'évoquer, puisqu'ils donnent en moyenne 6 200 € par an, ce qui est quand même assez généreux malgré tout.
Voilà, c'est un chiffre qui est intéressant. Ça permet de se benchmarker un peu.
Ça permet de se benchmarker, puis surtout, ça veut dire que si on le fait chaque année, ça veut dire qu'on a un chèque un peu plus important en janvier, quoi. Chèque, un virement.
Ce don aux associations et aux fondations. Une question justement corrélée, finalement. Faut-il augmenter la rémunération variable des salariés?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que cet écart qu'on pointe souvent entre les patrons des grandes entreprises, c'est principalement ça qu'on vise. En général, ça passe à la téloche et tout ça. C'est plutôt cette partie-là qui est visible. Si on indexait un peu de la même façon que pour les patrons d'entreprise, la rémunération variable des salariés, oui, ce serait pertinent. Alors, il y a un travail en France qui est fait par le gouvernement, alors pas assez visible ou pas assez effectif ou pas assez efficace avec le prime de partage de valeur ajoutée. Mais si on veut réduire ces 130 fois la différence entre le patron et la moyenne des salariés, sans doute que l'avantage, il sera plutôt sur la partie variable, parce que sur le fixe, la réelle complication, c'est que si demain vous êtes avec des marchés qui sont plus compliqués, vous avez longtemps des marchés de votre entreprise, hein, pas les marchés cotés, vous trouvez un peu coincé, vous licenciez, donc c'est pas forcément l'objectif non plus. Et sur une année où il y a un peu moins d'inflation, et donc on sait bien que les négociations ont été un peu moins importantes, les négociations salariales, si on pouvait augmenter un peu mieux le variable, j'ai envie de dire du coup, est-ce qu'on pourrait éventuellement être moins taxé sur la partie variable aussi en tant qu'entrepreneur, peut-être que ça marcherait pas mal aussi.
Le débat est ouvert sur BFM Business et dans Tout pour Investir. On en reparlera dans quelques minutes avec Alexandre Leng de Tudigo. Un mot de Ternel qui s'émancipe.
Qui s'émancipe de Maïf, qui était son principal mono, en fait. C'était d'ailleurs son mono
investisseur. Dites-nous ce que c'est Ternel pour ceux qui découvriraient.
C'est en fait un fonds d'investissement dans tout ce qui est start-up à impact. Alors c'est très à la mode parce que l'impact, on considère tous qu'on en a besoin. On sait bien que la version côté de l'impact ne marche pas trop, voire pas du tout. Et c'est encore le private equity qui a les meilleures doses d'investissement à cet égard. Et Ternel, du coup, s'émancipe de sorte à pouvoir en fait avoir plusieurs investisseurs à son capital. Là, c'est un fonds qui fait 150 millions de mémoire et qui aura vocation à créer un deuxième fonds d'une centaine de millions, 120 millions. Ils ont également vocation à être à l'Europe, à l'échelle européenne et pas uniquement à l'échelle française. Et pour ceux qui s'intéressent, tout ce qui est CFDR, on sera en article 9 sur cette partie-là, c'est-à-dire avoir un impact extrêmement positif, à la fois dans le social, à la fois dans la gouvernance et à la fois dans l'environnement.
Voilà, Ternel qui s'associe à Capital Croissance et qui veut incarner une nouvelle génération d'investisseurs.
Exactement.
Pour soutenir les start-up de l'économie
solidaire.
Solidaire, impactante. Vous restez avec nous, Géraldine. On va continuer à parler de ces sujets, entre autres, dans quelques minutes. Mais avant ça, on va passer une tête chez nos traders pour savoir que faire dans cette journée où, symboliquement, on est passé en dessous des 8000 points côté CAC 40.
Tout pour investir. Le match des traders.
Et on a bien besoin de vous, messieurs, ce matin. Mathieu Cerron, trader et fondateur de Galileo Trading, avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. Bonjour Andrea, on va démarrer avec vous. Andrea, on est passé en dessous du seuil symbolique des 8000 points. En dessous des 8000 points, quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller et quelles sont les recommandations que vous pouvez partager avec nos auditeurs et nos auditrices?
On a une ouverture compliquée hein, sur le CAC avec une baisse assez importante dès l'ouverture. Pourtant, on s'attendait pas forcément à cette baisse. Au début, on avait des futurs qui étaient globalement plutôt bien orientés ou proches de l'équilibre au pire. Et finalement, on a quand même glissé pas mal. On est venu très proche de cette zone des 7900 points. Alors le vrai support sur le CAC, il est à 7875. Si on venait à casser 7875, il y aurait quand même une petite dégradation de la tendance avec derrière un autre niveau à 7812 qu'il faudrait surveiller avant du coup là un glissement qui pourrait être plus important vers les 7550. Donc voilà, on n'en est pas encore là. Pour le moment, c'est les niveaux qui tiennent. On voit d'ailleurs une orientation quand même un peu meilleure des futurs aux États-Unis qui sont quand même mieux orientés. Ça peut aider aussi le CAC à sauver un petit peu cette zone des 7900 points. Donc il faudra continuer d'évaluer la situation au fur et à mesure que la journée passe. Il y a quand même eu beaucoup de choses à digérer sur le CAC. Il y a toujours des résultats d'entreprise qui sont assez importants et qui sont publiés au fur et à mesure. Mais il y a aussi ces annonces de la Fed hier qui ont été publiées. Alors si on regarde hier la réaction sur les marchés américains, elle a été extrêmement volatile avec d'abord une baisse, puis derrière une tentative de rebond. Mais on est sur les marchés américains quasiment au même niveau qu'avant les annonces de la Fed. Donc du coup, quand même, on a assez bien digéré la nouvelle. Au final, pas grand chose de nouveau. On craignait une Fed Fed très très dure, beaucoup plus stricte en matière de politique monétaire, qui aurait pu peut-être laisser la porte ouverte à une future hausse de taux, alors que du coup on n'a pas du tout eu ce discours-là de la part de Jérôme Powell. À l'inverse, il a confirmé qu'il n'y aurait pas de prochain mouvement de hausse de taux du côté de la Fed, mais que les taux resteraient sur ces niveaux élevés encore longtemps. Donc du coup, ça a quand même plus ou moins rassuré le marché, mais on n'a pas vraiment vu ça ce matin sur le CAC. Donc attention à cette zone, encore une fois, 7875, c'est la zone à risque sur le CAC qu'il faut maintenir. Si on devait se redresser un petit peu, il y a première zone de résistance vers, on va dire, 7960, 7980. Après, derrière, c'est les 8040 points qu'il faudrait aller viser pour essayer d'avoir une embellie et sortir un petit peu la tête de l'eau sur le CAC. Mais attention, parce qu'on revient quand même sur des niveaux techniques qui sont risqués. Donc il y a quand même beaucoup plus de nervosité et de fragilité. Là, on est quand même aidé aussi par des futurs américains qui sont pas trop mal orientés, donc il faudra être aussi très attentif à l'ouverture des marchés américains, voir quelle direction vont prendre les marchés américains, parce qu'on est encore une fois sur une zone sensible sur le CAC. On aura aussi une fin de semaine chargée avec demain le rapport sur l'emploi américain, donc ça aussi ça aura son importance, toujours dans un contexte où les marchés essayent d'évoluer les prochains mouvements des banques centrales. Donc attention aussi à cette fin de semaine qui peut être animée sur les marchés.
Attention à la fin de semaine qui peut être animée. Et vous, Mathieu Cerron, qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui et comment vous réagissez à ce que vient de nous dire Andrea?
Ben, on a des marchés qui restent désorientés, à la recherche de catalyseurs auxquels se raccrocher. Nous sommes toujours dans le scénario que nous évoquons depuis pas mal de temps déjà, d'une tendance de fond qui reste haussière, mais de marchés qui restent nerveux à court terme. Et il faut dire qu'entre des signaux mitigés concernant la croissance économique et une inflation qui est toujours persistante, la situation, elle est quand même complexe à arbitrer pour les marchés. André en a parlé, la Fed hier, bon, statu quo, pas de surprise, mais plutôt rassurant du fait qu'il n'y ait pas de hausse de taux à venir. Les résultats d'entreprise restent bons, on le voit ce matin encore. La palme revenant à Téléperformance qui prend actuellement.
Ah Mathieu, on vous a perdu, on a un petit problème technique. On était sur Téléperformance effectivement qui est leader de la cote ce matin en hausse de 11%. Mathieu, est-ce que vous êtes de nouveau avec nous?
Oui, moi je vous entends.
On vous a perdu à Téléperformance.
Ah, pardon. Donc je disais, la palme revenant à Téléperformance, la plus forte hausse du CAC. On aura les résultats d'Apple ce soir, qui vont être très importants aussi. Donc on est toujours donc entre les mêmes limites, avec des variations violentes à court terme, mais les mêmes limites. 7850, 7900, zone plutôt basse, 8150, 200, zone plutôt haute. Donc là, ce que je vous donne, ce sont les niveaux sur le futur, échéance mai. Il y a environ 20 points d'écart avec le cash. Donc moi, ce que je fais, comme on se rapproche de la zone basse, autour des 7850, 900, j'ai plutôt tendance à acheter, et vu le peu de visibilité plutôt des calls, donc il y a quelques instants j'ai acheté des calls 8050 échéance mai, ça vaut pas très cher, ça vaut environ 20-25 points pour jouer justement une reprise, considérant que oui, on a un petit biais baissier à court terme, mais quid du potentiel lorsqu'on s'approche justement de cette zone des 7850-7900, et si jamais on a un rebond important, on aura un biais haussier, mais quid du potentiel à proximité des plus hauts récents. Donc voilà la façon dont je travaille actuellement, donc plutôt voilà une position, on va dire, haussière à moyen long terme, et puis des arbitrages à court terme selon les biais haussiers, les biais baissiers qui se mettent en place. Et sur les actions, il y a des choses intéressantes aussi. Je pense notamment à Stellantis qui baisse pas mal, qui a beaucoup baissé ces derniers jours et qui arrive sur 19,5-20 sur un niveau support intéressant. Alors oui, le secteur de l'automobile, c'est un petit peu compliqué ce matin. En ce moment, même si ce matin, nous avons eu des résultats intéressants en ce qui concerne les ventes d'automobiles en France, ce n'est qu'en France, mais c'est plutôt encourageant. Donc des marchés qui se cherchent, qui sont désorientés vraiment à la recherche de catalyseurs.
Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage. Petite lampe torche sur notre journée compliquée sur les marchés. Et très bonne journée et à la semaine prochaine, Andrea et Mathieu, pour d'autres décryptages, un autre match des traders. On va continuer à essayer d'éclairer votre journée d'investisseur particulier. On a quelques sujets d'actualité qui vous concernent à suivre pour débattre.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
L'équipe du jeudi au service de votre culture financière. Géraldine Métifeux, notre gestionnaire de patrimoine, est toujours parmi nous. Rebonjour Géraldine.
Rebonjour Lorraine.
De l'équipe Alter Egal et Alexandre Leng de Tudigo. Non pas Alexandre Tudigo, comme je vous présente depuis tout à l'heure. Et là, bonjour Alexandre.
Bonjour Lorraine.
Nous allons continuer le débat avec vous Alexandre, lancé par Géraldine en début d'émission sur la rémunération variable des salariés. On parle beaucoup de celle des patrons. Finalement, Géraldine nous dit, comme pour les patrons, tout est une question de proportion. Que penser de la paye, de la rémunération des salariés de manière fluctuante, variable ?
C'est un sujet qui est complexe. Très, très, très complexe. Passionnant, intéressant et qui peut avoir des effets assez incroyable sur la croissance de l'entreprise et l'engagement des salariés, et en même temps être capable de créer du désengagement et puis une baisse de la collaboration. Je m'explique, nous chez Tudigo, on a mis en place une politique de salariale avec du variable et des variables très forts, hein, depuis maintenant plus de 2 ans.
Très fort, ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire qu'on peut doubler, voire plus, son salaire. Avec
pas capé, quoi.
Et pas plafonné d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc on a des jeunes chez nous
qui
ont pu, en fait, parce qu'ils avaient du talent et ils avaient pas forcément l'expérience.
Est-ce qu'ils sont mieux payés que vous? Parce que c'est vous le patron, en fait.
Ouais, ils peuvent être mieux, ils sont mieux payés que leur manager, ils sont mieux payés qu'à un moment. Bah, moi j'ai une rémunération variable aussi, hein, parce que je pense que c'est pareil. Moi j'aime bien effectivement pouvoir dire à mes actionnaires que mon salaire va être dépendant de la performance de l'entreprise, du chiffre d'affaires, du résultat qu'on va dégager à la fin, et que effectivement toute cette équation fonctionne bien. Je pense que c'est sain. Donc c'est sain d'un côté, ça permet d'avoir une politique qui est redistributive, d'avoir tout le monde qui est engagé dans le même bateau. Après, il y a une histoire de dosage. Parce que le problème avec le variable, c'est que c'est un peu une drogue en même temps. Donc ça crée des... Pour certains, hein, qui prennent d'un coup un salaire net de 2-3 000 euros et puis ils prennent des mois où ils vont faire 10 000 et plus, ça fait des grands shoots de dopamine. Et puis quand c'est plus ça, il y a énorme descente, démotivation, et puis voilà, énervement. Et puis ensuite, vous avez aussi le sujet de l'année, on change d'année, l'entreprise a changé de dimension, ce qu'on peut attendre d'un salarié est différent aujourd'hui de ce qu'on pouvait attendre hier, et puis les règles changent, et là, il y a de l'insatisfaction qui se génère.
Là, du coup, t'es vraiment sur la partie, on va dire, perso, c'est-à-dire ma compétence, ma contribution perso. Donc, ça peut créer des difficultés. Moi, ce que j'envisageais plus dans le discours, et c'est ce qu'on a mis plutôt en place sur Alter Egal, mais ce qu'on voit aussi, hein, c'est une rémunération variable au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire que tout, la prime de partage de valeur ajoutée, des primes contractuelles de qualité, etc. Donc c'est pas, l'intéressement, on a mis en place aussi, participation, mais et à cet égard, tu peux lisser, nous c'est ce qu'on a fait comme choix. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, tout le monde touche la même chose, donc quand on a atteint le max de réussite sur Alter, tout le monde touche, c'était ce mois dernier, exactement le même niveau. Je peux combien ils ont touché, 6 000 balles, je crois, chacun.
Ça dépend aussi des profils.
Non, ce que je veux dire, c'est que si t'es un profil commercial, t'es obligé de le mettre en variable. Ça n'a pas de sens de pas avoir de variabilité de revenus sur un commercial, sinon le mec il reste chez lui. Mais si tu veux pas créer trop de différences avec les fonctions support et back, par exemple, dans ces conditions-là, je pense qu'il faut un variable global entreprise. C'est-à-dire que ce qu'il faut en général sur un commercial, c'est avoir un fixe pas trop élevé, histoire qu'il se lève un peu le matin. Avec un variable effectivement déplafonné et qui puisse être intéressé à la réussite globale de l'entreprise en dehors de sa contribution personnelle. Sa contribution personnelle peut être très bonne dans une année mauvaise. Si l'entreprise fonctionne bien, tout le monde peut participer à cela. Et je pense que c'est cette partie-là qu'il faut développer. Ce que a commencé à faire le gouvernement avec les primes de partage de valeur ajoutée qu'on a appelé la prime Macron et puis qui s'est généralisée, ça c'est plutôt pas mal parce que tu arrives à, je sais plus à combien d'été, mais je crois que tu arrives à 6000 balles. On peut fiscaliser pour l'employeur sur un salarié qui gagne sa vie correctement. C'est quand même assez confortable. Si tu ajoutes l'intéressement et ainsi de suite, sur une année qui est très bonne, le mec peut se faire 12 000, 15 000 balles, 20 000 balles de plus, sans être dans une fonction commerciale.
Il y a cette logique aussi que c'est du salaire, donc ça va être taxé comme du salaire.
Ça dépend. Ouais. L'intéressement, on peut le prendre dans le plan épargne entreprise, et auquel cas, il n'y a pas de taxation. Et puis, pour l'entreprise, c'est des charges extrêmement faibles. C'est 8% de cette CRDS, donc c'est assez faible. Donc, pas forcément. Et la PPV, quant à elle, elle n'est pas du tout fiscalisée ni pour le salarié, ni pour l'employeur. Donc, à cet égard, ça peut être extrêmement intéressant. Mais ça ne réduira pas forcément les écarts avec le patron ou avec le chef d'entreprise. Mais après, c'est une question de responsabilité aussi. La réelle variable d'ajustement, globalement, c'est quand même le patron de l'entreprise. Parce que quand il y a une tuile, c'est plutôt lui, soit qui va sauter, soit qui va réduire sa rémunération. Enfin, typiquement, c'est mon cas, moi, qui suis de la société majoritaire. Il n'y aura pas de débat. C'est-à-dire que si y a un problème dans l'entreprise, c'est moi qui gère.
Nous, c'est ce qu'on fait. Hein, dans les périodes, quand il y a eu des périodes creuses dans la vie de l'entreprise, on n'avait pas eu de soucis avec mon associé à réduire notre salaire au SMIC. Bah, pour terminer et compléter sur ce sujet, je pense qu'il y a la rémunération. On peut mettre le variable au niveau individuel. Nous, ce qu'on a vu, effectivement, l'intéressement, le variable collectif au niveau entreprise, c'est aussi une manière d'engager tout le monde. Mais on l'a complété récemment avec des variables au niveau des pôles et voire de petites équipes pour qu'on ait quand même un sentiment collectif, mais avec des contributions qui peuvent être quand même bien mesurables. Voilà. Et tout ça, c'est lié avec ensuite une politique d'entreprise où on va vraiment être très, très rigoureux sur la fixation et le suivi des objectifs.
Le variable comptabilisé par équipe ou par pôle. Une question, justement, peut-être qu'il va toucher une grosse prime d'intéressement ou peut-être qu'il a touché un bonus, on ne sait pas. C'est Laurent qui nous a écrit et qu'on salue. Il nous écrit souvent des salves de questions, donc j'ai choisi cette question, toutes les questions qu'il nous envoie en début de semaine. Il nous demande ce qu'on pense des dépôts à terme. Il a une grosse somme déposée à 3%. L'avantage, c'est que c'est liquide et relativement disponible rapidement. Géraldine, qu'est-ce que vous conseillez à Laurent dans le contexte actuel ? Est-ce qu'on mise sur les comptes à terme et les dépôts à terme, est-ce que c'est pas mal en ce moment ?
Alors oui, c'est pas mal en ce moment. En l'espèce, les comptes à terme sur 3 mois sont ceux qui sont les mieux rémunérés. On peut dépasser les 4%. Donc, pour rata temporis, c'est...
Vous pensez aux comptes boostés ?
Non, compte à terme. Les comptes sur livret boosté, on n'arrive pas à ces niveaux-là. C'est vraiment les comptes à terme, c'est-à-dire que mais d'habitude, les comptes à terme, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., avec un gain, plus on reste. Mm. Là, c'est un peu l'inverse. Les comptes à terme les mieux rémunérés sont plutôt sur 3 mois. Alors, ça fonctionne surtout sur la trésorerie entreprise, mais ça marche aussi sur les particuliers. Alors, je ne sais pas de quelle grosse somme il parle. Donc, ça, après, c'est à vérifier. Mais en tout cas, sur 3 mois, c'est imbattable. Après, dans 3 mois... Et avec la BCE qui va se prononcer début juin, il est probable qu'il y ait une variation plus impactante sur ces taux-là. Auquel cas, on pourra aussi se tourner, mais c'est pas forcément, comment dirais-je, aussi liquide dans ce sens où il faudra attendre le début de l'année 2025 pour récupérer le bonus de rendement. Mais il y a des fonds euros aujourd'hui boostés, notamment celui de Cardiff, qui est extrêmement bon, où si vous avez une grosse somme, ça veut dire qu'on peut prendre, 1,80 de bonus sur un fonds euro qui a rémunéré 3% net avant les prélèvements sociaux l'année dernière. C'est pas mal. Donc, ça, je pense qu'il faut regarder dans le détail. Et puis surtout, il faut voir un tout petit peu si l'argent va servir à quelque chose dans 3 mois ou dans 4 mois, ou si en réalité, il prépare sa retraite avec. Donc, il peut faire un bridge avec le compte à terme sur les 3 prochains mois, et puis se reposer la question dans les 3 mois à venir, parce que la baisse des taux annoncés va forcément bousculer un peu la hiérarchie dans ces fonds, ces investissements qui sont liquides et sans risque.
Voilà, un compte à terme pour bridger dans les quelques mois qui viennent, en attendant d'y voir un petit peu plus clair, c'est la réponse de Géraldine à Laurent. Un mot peut-être du Bitcoin, parce que peut-être que Laurent voudrait finalement acheter des Bitcoins ou d'autres cryptos avec cette somme sur laquelle il nous sollicite.
Oh,
Amaury de Tonquédec nous a rejoint. Bonjour Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
En préparant cette interview, nous n'avions pas anticipé que le Bitcoin allait autant se péter la figure hier, on va dire. Et donc, on était en train d'extrapoler sur un Bitcoin à 100 000 euros. On se disait, si le Bitcoin allait toucher 100 000 euros, regard sur ce chiffre, Amaury, est-ce que c'est possible, envisageable, souhaitable?
Alors, ma position n'a pas changé depuis la dernière fois, lorsqu'on avait parlé notamment avec Géraldine. Bon, on a eu une annonce de la Fed hier qui maintient ses taux. Ça va dépendre aussi de ça, en fait. Je pense que ça arrivera peut-être un petit peu plus tard que prévu, entre guillemets, parce qu'il faudra attendre que la Fed baisse ses taux, qui les a maintenus hier soir. Parce que, voilà, des taux élevés, c'est pas bon pour les actifs risqués dont font partie les crypto-monnaies. Un Bitcoin à 100 000 dollars, moi, je pense que ça va arriver. C'est possible que ça arrive avant la fin de cette année. Maintenant, ça dépendra aussi du rythme de potentiel de baisse des taux de la Fed, et puis aussi de tout un tas d'autres événements, des élections américaines. Mais voilà, je pense que les fondamentaux n'ont pas changé. Les ETF sont toujours là. L'adoption est croissante. On a eu hier, d'ailleurs, l'annonce de la condamnation de Changpeng Zhao, l'ancien PDG monde de Binance, à 4 mois de prison. C'est beaucoup moins que ce qui était requis. Il y avait 36 mois de requis. Lui a dit que voilà, il a fait son mea culpa, a dit qu'il s'excusait, qu'il s'expliquait. Bon, ça prouve que voilà, tout est un peu en train de rentrer dans l'ordre, entre guillemets, ça s'institutionnalise. Il dit d'ailleurs, pour assurer, que le fait que Binance ait été passé sous les radars, un peu sous Ryongs, ça montre que finalement il n'y a pas de problème, que la plateforme est safe. En tout cas, c'est ce que lui dit. Voilà, donc. Dans les fondamentaux, pour résumer, ça ne change rien. Même si effectivement, on a un Bitcoin à moins 13% sur un mois, moins 10% sur une semaine, il reste toujours à plus de 100% sur un an. Et des corrections comme ça, post-halving, c'est ce qui s'était passé dans les cycles précédents. Cette correction, elle pourrait durer encore 1 à 3 semaines, voire un petit peu plus. Je pense toujours qu'à mon avis, après l'été, le cours du Bitcoin devrait s'apprécier plus que ce qu'il n'est aujourd'hui.
Oh, j'ai hâte d'avoir votre réaction, Géraldine.
Non, je suis dubitative, mais je suis une par nature dubitative. Non, je trouve ça super. Moi, je pense qu'en yens, on l'atteindra plus vite, sans doute. Et
là, on atteindra
100 000 yens, peut-être, ce sera plus facile. Mais dans l'absolu, le Bitcoin, le halving, etc. Ça reste quand même extrêmement spéculatif. C'est-à-dire que on est quand même sur, je sais pas comment on peut se fonder pour dire qu'on arrivera à plus après. Alors oui, peut-être des flux, parce que les flux font la performance. J'imagine que c'est ça l'idée
alors,
générale.
En fait, il se raréfie avec le temps, avec notamment le halving qui arrive tous les 4 ans, qui est une raréfication de l'offre.
Ça, c'est programmé, tout le monde le sait.
Voilà, c'est programmé, donc tout le monde le sait. Et puis la demande,
aux autres,
elle augmente.
Éventuellement.
Voilà, et la demande, elle augmente. Quand on parle de la Fed ou par exemple qui baissera à un moment ses taux. La masse de dollars, elle est illimitée. C'est ce qui fait que il se déprécie dans le temps, alors que la masse du Bitcoin, elle, est limitée. C'est ce qui fait qu'il va s'apprécier dans le temps.
Comme le pétrole.
Comme le pétrole, mais là,
comme l'or.
Sauf que l'or, on voit bien que en réalité, et on a souvent dit que le Bitcoin était un peu l'or numérique. On voit bien sur l'or que là, récemment, très récemment, ça a beaucoup séduit. Mais si on regarde l'évolution du cours sur les 15 dernières années de l'once d'or. Fallait attendre pour gagner un peu d'argent sur
le Bitcoin.
Longtemps.
On parle du passage des 100 000 dollars, on en parle depuis 5 ans. Enfin, c'est à chaque année.
Je crois qu'on en parle tout le
dès
temps.
Dès que ça monte, dès qu'on a un peu un boule.
Ça peut être intéressant, mais la question, c'est peut-être de trouver un produit structuré sur les bitcoins. Ça pourrait être intéressant pour des clients. Alors, je ne pense pas forcément à votre fameux Laurent, Lorraine, mais peut-être qu'on pourrait structurer un produit sur la probabilité de hausse ou de baisse du bitcoin. Ça pourrait être intéressant. Je dis ça parce que la volatilité est souvent un élément qui permet de structurer des produits de façon intéressante. Et nous-mêmes, on lance un produit là qui est sur le CMS 10 ans. Et on parie sur la baisse des taux. Alors, on dirait que ce n'est pas très original, mais enfin, ça nous fait sortir un produit capital garanti au terme avec un rendement annuel à 6,40.
Mais c'est vrai qu'on pourrait, surtout que la volatilité du Bitcoin a tendance à se réduire avec le temps. Donc voilà, on verra. Mais effectivement, c'est un frein. Ça fait peur à la plupart des gens, cette volatilité-là. Parce que oui, c'est vrai que c'est volatile. Mais quand on part depuis la création du Bitcoin, dans le temps, et il continue de s'apprécier, en tout cas pour l'instant. Voilà. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais ça devrait continuer à s'apprécier.
Un conseil en investissement serait-il celui de miser sur xAI, la start-up avec laquelle Elon Musk veut concurrencer OpenAI, qui vient de lever 6 milliards de dollars. Mais nous n'avons pas le temps de traiter ce sujet. Nous en parlerons la semaine prochaine. Ça s'appelle un teasing. Mais Elon Musk et Tesla, nous en parlerons en revanche dans une grosse heure, puisqu'on va dédier notre question-réponse au secteur automobile et à la bourse. Comment performent les pure players? Pourquoi c'est si compliqué l'automobile électrique en bourse? On va sans doute reparler d'Elon Musk, du coup, dans une heure, avec Thomas Veillet d'investir.ch. Et Antoine Larigaudry de Puronex qui nous fait l'amitié de revenir dans l'émission pour parler d'un de ses sujets de prédilection, la voiture. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Géraldine Métif d'Alter Egal. Merci Alexandre Leng de Tudigo. Vous êtes notre coach dans quelques minutes. On va parler Family Office avec vous. On va essayer de s'inspirer des meilleures méthodes des Family Office pour mieux gérer notre argent. C'est la promesse du coach dans un gros quart d'heure. Et puis à Maurice Tonquédec aux manettes de l'émission que je salue, qu'on retrouve en fin d'émission pour le programme de BFM Crypto, le club qui a lieu tous les jours à 15h. Vous restez avec nous, on marque une pub. Et ensuite, Nicolas Dos arrive pour nous parler de cette place en haut du podium de l'attractivité que la France occupe depuis quelques années. On va parler du baromètre EY qui existe depuis 1997. Vous vous rendez compte? A tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose d'économie et tout qui ne va pas mal en économie. Nicolas va nous parler du dernier baromètre EY qui confirme la première place de la France en termes d'attractivité. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Qu'est-ce qui nous vaut cette distinction?
Le nombre d'investissements réalisés par des étrangers sur le sol de France en 2023, ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Donc voilà le chiffre. On est presque à 1200, à 1194 projets d'implantation en France ou d'extension d'activité déjà présente. C'est un chiffre qui est un peu en baisse par rapport à 2022, mais qui nous laisse quand même pour la cinquième année de suite à la tête du podium. Je précise bien qu'on compte le nombre de projets, on compte pas les milliards qu'il y a derrière. Et puis, point important, c'est que oui, on est en tête sur le nombre de projets, mais on n'est pas du tout en tête sur le nombre de nouveaux projets. Donc la plupart, environ 70% ou un peu moins, sont des projets d'extension d'activités déjà existantes. Et donc c'est la cinquième année qu'on est à la tête du podium. C'était pas le cas il y a encore 15-20 ans, vraiment.
Voilà.
Je peux vous donner quelques exemples. L'américain eSpace qui a décidé d'implanter son siège et son usine de nanosatellites à Toulouse. Il y a GSK qui a décidé de mettre 240 millions d'euros d'investissement dans ses usines d'antibiotiques qui existent déjà en Mayenne. Vous avez l'allemand Daimler qui met 50 millions d'euros dans son usine de bus qui est déjà existante dans la Meuse. Et puis alors, bon, le projet emblématique, mais il y en a pas tout le temps des comme ça. Là, c'est le Taïwanais Prologium qui promet 3000 emplois en créant une usine de batteries électriques pour les voitures installées à Dunkerque. On en avait parlé de celui-là, bien sûr.
Voilà, Toulouse, Mayenne, Meuse, Dunkerque, ça maille le territoire. Le gouvernement veut y voir le résultat d'une stratégie économique qui réussit. Est-ce qu'on peut dire qu'il a raison ?
En partie seulement, puisqu'on peut considérer que c'est la politique de l'offre qui est récompensée. La politique de l'offre, elle démarre sous 2014 avec François Hollande. Elle se poursuit avec la première réforme du marché du travail et Myriam El-Khomri. Après, effectivement, on passera au premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec les ordonnances pénicaux sur le marché du travail et puis bien sûr la réforme fiscale de 2017. Mais voilà, on mène une stratégie qui est constante, qui est stable en matière de politique de l'offre depuis 10 ans et on voit que c'est payant. Alors évidemment, politiquement, l'exécutif et notamment Emmanuel Macron s'en attribuera très certainement la paternité, notamment le 13 mai à l'occasion du nouveau Choose Friends qui va être organisé en France.
Pourriez-vous nous lister nos points forts en fait et nous dire pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles les investisseurs choisissent la France?
Clairement la politique de l'offre qui produit des résultats et puis c'est vrai le crédit d'impôt recherche qui est monté en puissance. Il a vu le jour en 1983 le crédit d'impôt recherche, clairement monté en puissance. On a une manœuvre qui est considérée de bonne qualité. La fameuse stabilité fiscale, c'était pratiquement le principal reproche que l'on nous faisait pendant des années. On ne nous reproche plus l'instabilité fiscale. L'électricité décarbonée est devenue un argument qu'on ne voyait pas par le passé, c'est vrai. Les infrastructures sont bonnes et puis il faut bien reconnaître que la position géographique de la France en Europe occidentale, c'est un hub. La France, on est merveilleusement bien positionné. Voilà vraiment des points forts de notre pays.
À l'inverse, qu'est-ce que les investisseurs étrangers pourraient reprocher à notre pays? Qu'est-ce qui dissuade?
Le prix de l'énergie, c'est la grande force des Américains par exemple. L'une des grandes forces, même s'il a baissé en 2023. Le coût du travail, qui reste malgré tout plus élevé chez nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on regarde ces projets d'implantation ou d'extension d'activités déjà existantes, ils créent beaucoup moins d'emplois que dans les autres pays. On en a plus des projets, mais ils sont moins créateurs d'emplois. 35 emplois en moyenne par projet, contre 49 emplois en moyenne en Allemagne, 61 en Grande-Bretagne, 299 postes en moyenne en Espagne. Après, le droit du travail, oui, il a été réformé, mais ça reste complexe. Le climat social, qui n'a jamais été un point fort de la France, bien sûr. La bureaucratie, bon, il n'y a pas que la France qui a des problèmes de bureaucratie, mais Dieu sait si on en a parlé, la complexité. Et puis aussi, une certaine difficulté d'accès au financement. Le marché des capitaux en France est moins liquide que dans d'autres pays. Et puis, alors, il y a un nouveau point, un nouvel élément négatif qui ressort des enquêtes, pas de celle d'EY d'ailleurs, mais des dernières enquêtes d'attractivité, c'est le moins sécurité. Et ça, on n'avait pas l'habitude de le voir. Et notamment, le souci de la sûreté des personnes. Là, ça va plus être pour des étrangers qui décident d'implanter des activités en implantant également des salariés. C'est ce qui ressortait d'un baromètre qui avait été réalisé et publié par les conseillers du commerce extérieur de la France en février.
Voilà, la sécurité, un des points faibles que les investisseurs étrangers peuvent reprocher à la France. Merci beaucoup.
Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous ajoutez ça au PIB du premier trimestre, au recul de l'inflation, à l'absence de dégradation par les agences de rating. La petite séquence est pas mal.
Mais c'est pas sur BFM Business qu'on va dire que l'économie va mal, hein, c'est bien de le rappeler.
Oui, enfin, il y a des moments où il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui ne tournent pas très rond.
Mais soulignons les choses qui vont bien. Merci, cher Nicolas. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay. Et pour vous aussi, je vais vous faire votre avis finalement sur est-ce que tout va si mal en économie. Vous pouvez également participer au débat sur la chaîne YouTube de BFM Business dans la partie commentaires, réagir et alimenter la réflexion et la discussion avec Nicolas Dose et notre rédaction. À suivre, nous allons nous occuper de votre portefeuille avec Franklin Pichard.
Tout pour investir en portefeuille.
D'autres bonnes nouvelles peut-être, en tout cas celle d'une consolidation. Bonjour Franklin Pichard.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes directeur général de Kipling Finance. Avec vous, on va parler d'une consolidation qu'on attendait, qui est bienvenue. Maintenant, comme ça, on peut passer à la suite. Racontez-nous.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait quand même de nombreuses semaines que les marchés, les gérants, les gestionnaires de portefeuille étaient un petit peu gênés pour investir. On avait des progressions qui étaient très importantes. On avait, au début du mois d'avril, on était dans cette attente des publications qui pouvaient donner un élan. On a touché un plus bas, c'était le 16 avril, on était à 7899, donc il n'y a pas de drame aujourd'hui. Il y a 15 jours, on était à un niveau plus bas que maintenant, mais le bilan sur le mois d'avril est quand même négatif. De début avril à fin avril, le CAC a perdu 2,7% environ. Et ça peut effectivement, vu ce qu'on a aujourd'hui, ça peut un petit peu continuer.
Bon, pour ceux qui nous écouteraient de manière délinéarisée, comme on dit, en podcast ou en replay ultérieurement, nous sommes jeudi 2 mai. Effectivement, le CAC est passé en dessous des 8000 points. Et ça, voilà, ça ne vous inquiète pas trop, cher Franklin, pour l'instant. Même si, historiquement, normalement, le mois d'avril est un très bon mois boursier cette année.
Oui, mais...
Voilà.
Il est bon parce que on a eu toute une succession au fil des ans de bonnes publications. C'est vrai que d'habitude on a peut-être un trou d'air un peu plus tôt dans l'année, et là on n'a pas vraiment eu ce trou d'air. Donc le mois d'avril a corrigé un petit peu avec retard les corrections qu'on a au cours du premier trimestre.
Voilà, et un petit trou d'air après une série de gains, on va le dire comme ça. Quelles sont les plus fortes baisses que vous avez dans votre radar, Franklin ?
Eh bien écoutez, si on fait le bilan, on a quand même trois titres qui se distinguent puisqu'ils font quasiment entre 9 et 10%, 10% de baisse. Hein. On a Edenred, Kering et Dassault Systèmes, donc ce sont au sein du CAC 40, sont quand même des gros titres, des belles valeurs. Et effectivement, on a vu que quand il y a des mauvaises nouvelles, quand les gérants sont un petit peu inquiets, eh bien la sanction est lourde et la main est très très lourde dans ces cas-là. Moyennant quoi, quand on regarde Dassault Systèmes, moi je vois que des analyses positives. La question est... jusqu'à quand le marché va baisser, mais il faut garder ses valeurs sur son radar, hein, clairement.
Dassault Systèmes, Kering et Edenred, plus forte baisse au mois d'avril que vous avez regardé près, Franklin. Côté forte hausse, qui surveillez-vous de près ?
Eh ben, on a vu, on a constaté une Unibail-Rodamco Westfield qui a progressé de plus de 5%, un peu comme Crédit Agricole. Et puis surtout, le grand gagnant, ça a été Total Energy qui a progressé de 8% sur le mois d'avril. On voit, ils ont profité des tensions entre les pays d'Iran et de la tension
sur le prix
du pétrole. Et par conséquent, effectivement, ça a largement profité à Total Energy.
Bon, ça continue ces résultats, on en attend encore d'autres. 35% des résultats publiés aux États-Unis et sur le S&P 500. Et tout ça, en majorité, bat le consensus. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite ?
Eh bien, plutôt des bonnes choses. Ça veut dire qu'une fois encore, les analystes étaient un petit peu trop prudents. 75% qui effectivement battent, ça veut dire des résultats 8% supérieurs à ce qui était anticipé par les analystes. Et puis, dans quel contexte ? On en a parlé, vous en avez parlé avant. Le discours de Jérôme Powell traduit quoi ? Une économie américaine très solide, Europe... On a une révision à la hausse des perspectives de croissance pour l'année 2024. On voit que finalement, les choses ne vont pas si mal. Donc, ce trou d'air dont on parlait tout à l'heure, cette correction du marché, eh bien oui, on va la mettre à profit à un moment pour rentrer et faire notre marché. Les soldes sont décalés en bourse, on va en profiter.
La Fed qui maintient sa vision d'un atterrissage en douceur réussit. Nous, notre Europe, avec des perspectives de croissance positives. Pour finir cette séquence avec vous, Franklin, est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs quelques entreprises, quelques valeurs que vous regardez de très très près?
Oui, mais on pourrait reprendre les publications de ce début de semaine ou de la fin de la semaine dernière. Vous reprenez un titre comme Air Liquide. Air Liquide a eu effectivement un petit passage à vide, moins 7,3% sur un an sur le premier trimestre, un trimestre comparable. Il y avait une base de comparaison qui n'était pas du tout favorable, comme ça a été le cas de beaucoup de sociétés cette année. Mais... n'oublions pas qu'Air Liquide chouchoute ses actionnaires et qu'au mois de juin, ils feront pour la 32e fois une attribution gratuite d'une action nouvelle pour 10 anciennes détenues. On est tout à fait, on reste positif sur du moyen terme et long terme et depuis toujours sur Air Liquide et on n'est pas les seuls. Vous avez Goldman, Barclays, UBS ou Berenberg qui ont des objectifs entre 200 et 220 euros. Donc typiquement, on a une des qui mérite aujourd'hui de rentrer sur la valeur. Également, on a des titres comme Saint-Gobain. Saint-Gobain, intéressant d'en parler parce qu'on a eu un
nouveau management. Ça, c'est l'actualité.
Le niveau de cours aujourd'hui de Saint-Gobain, ce sont les cours de 2007. On a eu des variations entre-temps, mais ce sont les cours de 2007. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. La bourse et les gérants croient au discours et surtout aux opérations qui sont menées par Saint-Gobain. On sort de périodes incertaines dans lesquelles on n'avait pas du tout confiance dans la politique qui était faite. On voit qu'aujourd'hui, même après la hausse qu'on a pu connaître 42% sur 52 semaines, les objectifs sont encore supérieur. J'ai vu des objectifs à 88, 90, 95 euros sur Saint-Gobain, malgré la hausse qu'on vient de connaître. Donc, c'est une histoire à regarder. C'est peut-être une belle histoire pour les prochains mois. Et puis, enfin, Téléperformance, la publication du jour, on valait 350 euros il y a deux ans. On vaut autour de 100 euros. On vaut autour de 94 euros aujourd'hui. Odo, par exemple, à 162 euros comme objectif. Donc, on a effectivement un rattrapage qui commence à se mettre en place et une approche des analystes qui commence à être positive. Et ça, c'est une bonne chose pour le marché.
Un mot de Stellantis pour conclure, parce qu'à 11h30, nous allons dédier notre question-réponse au secteur électrique en bourse. On va parler de pure player. Un mot de Stellantis, parce que le secteur auto a un petit peu déçu. Stellantis, à l'intérieur du secteur, ça donne quoi ?
Oui, c'est ça. Stellantis n'est pas une exception dans le secteur auto. Hein. Tout le secteur auto s'est pris les pieds dans le tapis. Mmh. On l'a vu là avec Mercedes, Porsche, Aston Martin, Renault. On voit que tous les titres ont très fortement corrigé. Le titre avait bien progressé, mais le titre vient de 27. On est à 20, autour de 20. On a baissé donc de 25, autour de 25%. Mmh. Typiquement, l'électrique patine. On sait qu'une voiture électrique freine très bien. Et bien, on voit que Stellantis freine très bien quand ça va moins bien, quand les immatriculations sont un peu à la peine. Je parlais avec un spécialiste de l'électricité automobile qui me disait le problème du secteur, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un petit peu à nouveau des problèmes de fourniture sur les piles, sur les batteries, et que du coup, les délais se rallongent et potentiels acheteurs finalement marquent un petit peu le pas et attendent que la situation soit un peu plus claire. Moyennant quoi, les analyses sur Stellantis seraient très très positives. Ils revoient légèrement à la baisse leurs objectifs et les objectifs aujourd'hui, au lieu d'être de 30, se situent plutôt entre 26 et 28 euros. Mmh. Un titre qui en vaut autour de 20. L'histoire peut être belle et surtout Stellantis au deuxième semestre sortira toutes sortes de nouveaux modèles et c'est là-dessus que Carlos Tavares souhaite communiquer et sauver l'année 2024.
Voilà, les histoires d'entreprises qui continuent de s'écrire, celles qui viennent alimenter vos envies d'investissement. Merci beaucoup Franklin Pichard pour ce décryptage ce matin. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site web. Franklin Pichard avec nous tous les 15 jours. À suivre, on s'occupe de votre culture financière. On va s'inspirer de ce que font les family office. Comment copier ce qu'il y a de meilleur dans cet univers du management de l'argent pour vous, chez vous, avec vos finances personnelles. C'est à suivre dans Tout pour investir.
Tout pour investir, le coach.
Qu'est-ce qui influe sur les décisions d'investissement de ce qu'on appelle les family office? Qu'est-ce qu'un family office et pourquoi ça vous concerne en tant qu'investisseur particulier, même si vous ne confiez pas votre argent à ces institutions? Alexandre Leng de l'équipe Tudigo au décryptage. Bonjour cher Alexandre.
Bonjour Lorraine.
D'abord, on va démarrer par un petit peu de définition. Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est qu'un family office ou qui connaissent le nom, mais sans trop de réalité derrière, donnez-nous une définition.
Un family office, c'est une structure privée qui gère le patrimoine d'une famille ou de plusieurs familles. Donc on distingue les monofamily office et puis les multifamily office. Multifamily office qui sont un peu comme des conseillers en gestion de patrimoine, mais qui au lieu d'avoir des clients de manière individuelle, vont à chaque fois gérer le patrimoine des familles et donc avec des surfaces d'investissement assez importantes.
Voilà, plus que peut-être un gestionnaire de patrimoine classique.
Ouais, alors en fait, d'ailleurs, si on prend le cas d'un monofamily office, en général, un family office, il est constitué lorsqu'un entrepreneur cède tout ou partie des actions de sa société pour une somme très importante. Les family office en général, on se parle de 100 millions et plus, vont mettre à la tête de cette entité qui va gérer leur argent un directeur d'investissement qui aura pour objectif de préserver et faire fructifier ce patrimoine, comme un bon père de famille finalement sur le long terme.
Vous savez que le code civil, maintenant on n'a plus le droit d'utiliser cette expression de bon père de famille.
J'allais dire bon père et bonne mère de famille, ça marche ?
Je crois qu'on n'a plus le droit de l'utiliser. On a fait ce sujet il y a quelques semaines déjà dans l'émission. Peu importe, ce qu'on veut, c'est une gestion de l'argent efficace, bien pensée. Et surtout, le premier élément que vous allez partager avec nous, c'est la vision.
parce que on va décrypter la manière dont investissent les family office. Il y a une grille d'investissement, on va dire, commune. Et la première, en tout cas, un des points communs, c'est une vision à long terme. Est-ce que c'est lié justement au fait qu'il y a le mot famille dedans?
Ben oui, bien sûr. Parce qu'en fait, le principe même du family office, ça va être d'aller jusqu'au bout de la vie de cette famille, la transmission également aux enfants, pourquoi pas.
Vers l'infini et au-delà.
Vers l'infini et au-delà, parce que d'ailleurs, des family office, parfois, la finalité, c'est de tout donner à des causes. C'est assez intéressant, parce que finalement, on va avoir une gestion de l'argent qui est très différente de celle qu'on aurait dans un fonds d'investissement, où on a pris de l'argent à des investisseurs qui veulent absolument obtenir un rendement. Là, on s'autorise beaucoup plus de choses. On peut investir sur le très long terme. Donc, on ne se parle pas d'investir sur 3, 5, 7 ans. On peut investir sur des horizons de 10, 20, 30 ans même et plus. On peut investir sur toute classe d'actifs. On peut également donner de l'argent. On peut se permettre vraiment d'avoir une vision qui va concilier à la fois le travail de l'argent sur le court moyen terme et puis une plus-value ou simplement même une préservation du capital sur la durée de vie de ce véhicule qui en fait a une durée de vie illimitée.
On le voit, c'est le très long terme. Effectivement, ça n'est pas le long terme des marchés. Un autre point commun dans la manière dont les family office investissent, c'est une logique de diversification un peu particulière. Racontez-nous ça.
Ouais, bah c'est les family office. Il y a un baromètre qui est sorti de l'Association française des family office la semaine dernière, l'AFO, qui nous montre qu'effectivement les family office diversifient très bien leurs investissements. Ils en mettent aujourd'hui 23% en private equity contre 21% l'année dernière. C'est leur investissement numéro 1. Pourquoi ?
Le non-coté.
Le non-coté, investissement de long terme par excellence, investissement qui est dynamique si on le garde justement sur une période longue, et puis investissement qui aussi a du sens. Ça, c'est les family office comme les entrepreneurs aiment bien. Ils le mettent également en actions, 21%, en immobilier pour 21% aussi.
C'est assez équilibré en fait.
Très équilibré.
Et puis, un cinquième.
Et puis ils aiment bien aussi également la dette privée, qu'elle soit cotée ou non-cotée, donc l'obligataire qui permet de faire travailler l'argent sur du court terme avec quelque chose de plus garanti. Et puis ils en gardent un tout petit peu en liquidité, hein, l'équivalent de ce qu'on pourrait être des comptes à terme par exemple, pour garder justement une poche qu'ils vont pouvoir utiliser pour un achat impulsif ou alors pour le donner à des associations, parce que les family office sont des grands donateurs d'ailleurs, pour les différentes causes qui leur tiennent à cœur.
Un petit peu de liquidité à hauteur de 10%, pour profiter aussi d'environnements de taux en hausse ou en baisse. Vous l'avez dit, à part égale, du non-coté, du coté, de l'immobilier. Finalement, c'est presque une diversification qu'on pourrait copier, nous, à titre individuel.
Absolument, absolument. C'est une excellente diversification. Alors, c'est une diversification quand même. La part de non-coté recommandée par l'AMF, on se parle plutôt de 5%, 5-10%. Pour autant, effectivement, à partir d'une certaine surface financière, lorsqu'on a cette fameuse épargne de précaution de côté, qu'on a déjà des investissements plus sécurisés, de l'immobilier, c'est une bonne allocation pour aller chercher du dynamisme, tout en ayant quand même de l'argent qui est mis un peu plus en sécurité. Et puis, vraiment, cette vision de diversification. Le family office va vraiment diversifier sur différentes classes d'actifs, et puis va différencier également sur les secteurs d'activité, sur les stades de développement. Il s'autorise beaucoup plus de choses qu'un fonds d'investissement qui a en général une thèse d'investissement sectorielle, stade de développement, taille de ticket. Le family office, il fait un peu ce qu'il veut.
Diversification, vision long terme, et là-dessus, vous rajoutez une petite dose d'instinct.
Ouais, et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et lié aussi au fait que les family office sont aussi souvent initiés et puis gèrent la fortune d'entrepreneurs vont... À la différence d'un directeur d'investissement de fonds, d'un analyste, vont pas forcément avoir besoin de modéliser, remodéliser pendant des mois un business plan et des cash flows pour pouvoir se dire si l'investissement est bon ou non. Ils vont pouvoir aussi prendre des décisions basées sur leur vision du marché, du secteur et puis surtout l'équipe qui est à la barre, le feeling qu'ils vont en avoir. Et ça, quand on fait de l'investissement non coté en private equity et encore plus à des stades d'amorçage avant que l'entreprise fasse déjà plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires. C'est hyper, hyper important.
De l'instinct, du feeling, un peu d'entre-gens aussi, peut-être plus d'amplitude pour aller rencontrer, prendre le temps de creuser, parce qu'il y a aussi une volonté d'investir responsable.
Ouais, ouais, effectivement. Bah, c'est quand même des gens qui ont déjà gagné de l'argent. Ils ont gagné de l'argent aujourd'hui. Alors, ils souhaitent ne pas le perdre. Ils souhaitent que cet argent puisse continuer à fructifier, hein, évidemment, pour pouvoir le transmettre sur les générations futures. Mais ils ont envie de lui donner du sens. Ils ont assez d'argent pour ne pas chercher la rentabilité à tout prix. Ce qui compte d'ailleurs, et c'est aussi dans les décisions, c'est une partie de sécuriser, et donc d'aller chercher des investissements qui, d'un point de vue économique, manifestent une capacité à être pérenne, plus importante. Donc par exemple, chez Tudigo, on a régulièrement des family office qui investissent sur les tours de table aux côtés de fonds, aux côtés de business angels, en particulier sur des activités, par exemple, qui ont des actifs. Je prends un exemple, on avait pu avoir la brasserie Lilloise Brickhouse, qui a plusieurs restaurants, on avait sur ce tour de table-là, aux côtés du fonds de Pernod Ricard, les family office, par exemple, du fondateur de Betclic, de la famille Ouzé, qui est fondateur des Galeries Lafayette, parce que c'est un investissement sur lequel vous avez des fonds de commerce, vous avez une croissance qui est bonne mais raisonnée, vous avez une rentabilité qui se dégage, et ça, les family office, ils aiment bien.
Long terme, diversification, instinct, on a dit, on a parlé aussi d'impact ou de volonté d'investir responsable. Il y a aussi cette option d'investir en direct ou pas. Je voudrais, comme mot de la fin, Alexandre, qu'on se mette à la place des entrepreneurs et des entrepreneuses qui reçoivent de l'argent de ces family office. Comment c'est d'avoir de l'argent qui vient d'un family office par rapport à un business angel classique ou peut-être un fonds de VC plus court-termiste?
Le family office, il a l'avantage d'être plus gros qu'un business angel, de pouvoir mettre des tickets aussi gros que ceux d'un fonds d'investissement professionnel, mais en étant moins agressif sur les, notamment sur les conditions de sortie ou l'horizon de sortie, parce qu'il n'a pas le fonds d'investissement.
Il a 5-7 ans.
Il a 5-7 ans, il faut qu'il liquide les participations. Il a besoin de déployer très vite son argent. Et puis ensuite, il a besoin de vendre les participations pour les ramener aux investisseurs et puis relever de l'argent. Et on en vient à un deuxième point, c'est que justement, ils vont moins du coup presser les entrepreneurs. Et puis, le family office va être en capacité beaucoup plus facilement de réinvestir sur les tours suivants.
Investir et réinvestir.
Et surtout dans le contexte actuel où on voit que les fonds d'investissement ont du mal à lever des capitaux depuis à cause effectivement de la hausse des taux d'intérêt, le contexte général. Le family office, il a moins ce problème et on les voit de plus en plus, nous, aujourd'hui, chez Tudigo, sur les tours de table. Donc, le family office est capable d'investir, de réinvestir, et ça, c'est quand même intéressant pour une entreprise qui est en plein développement, ou peut-être si le plan a un peu dérivé et qu'on n'est pas encore à la cible qui permettrait de faire le très gros tour de table avec un nouveau fonds. Le family office, comme un bon business angel, est là pour pouvoir remettre au pot.
Voilà, que pouvons-nous retenir des stratégies d'investissement des family office pour vous, pour nous, bon père, bonne mère de famille qui voulons mieux gérer notre argent ou mieux l'allouer ou celui qu'on aura plus tard. Merci beaucoup Alexandre Leng et l'équipe de Tudigo pour ce coaching. Qu'est-ce qui influe sur les décisions d'investissement d'un family office et comment s'en inspirer? Cette séquence t'a retrouvée en podcast et en replay sur le site et l'application BFM Business. Vous restez avec nous, c'est la deuxième partie de Tout pour investir dans quelques minutes. On va parler bagnole et on va parler électrique et on va parler bourse. Quelles sont les performances des pure players en bourse quand on s'intéresse aux véhicules électriques? Qu'en penser en tant qu'investisseur particulier? Mais on va aussi parler PER, plan épargne retraite, et PERP, plan épargne retraite populaire. À suivre dans Tout pour investir. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.